La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un monde.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Après les milliers d'années de sculptures que produisent toutes les civilisations, l'artiste dont nous allons parler aujourd'hui fut l'un des premiers certainement à sculpter au-delà de l'objet, à modeler les impressions, les qualités immatérielles qui environnent la forme. Il fut, je crois, le premier à unir le sujet de sa sculpture et le volume de matière qui l'entoure, le signe, l'atmosphère qui l'influence. L'impact de son œuvre fut considérable sur le futurisme italien, sur Picasso, sur Brancusi et sur Rodin, évidemment. Rodin qui lui écrit en 1893 pour lui avouer sa folle admiration. Apollinaire qui écrit le considérer en 1918 comme le plus grand sculpteur vivant. Cet artiste, c'est Medardo Rosso. Mystérieusement, sa gloire a été éclipsée du paysage des grands artistes du XXe siècle. Peu d'expositions, peu d'œuvres sans doute, et cet Italien truculent et génial, qui avait choisi d'être citoyen français, cet explorateur apprécié par Mallarmé, cet ami de Degas, celui que Boccioni considérait comme le précurseur, fut dévoré une partie de sa vie dans des combats sans espoir avec le grand ogre de son époque, Rodin. Reste l'œuvre bouleversante et les pans méconnus de ses dessins et ses sculptures, évidemment. Écoutons comment le très influent critique d'art au début du XXe siècle, Vaucelles parle de lui.
Je l'ai connu et aimé. C'était un géant roux, Héraclès, Dionysos, Héphaïstos plutôt. L'air terrible, fort comme un turc, bon comme du pain et candide plus qu'un enfant. Il ne vivait pas sur la terre, n'avait aucun sens des réalités et déambulait tête nue, en corps de chemise, boulevard des Batignolles, proférant des axiomes incendiaires. Ce personnage extraordinaire, le plus marquant des sculpteurs d'Italie depuis Gemito, fut un précurseur qui bouleversa les principes sacro-saints de la statuaire traditionnelle. Un révolutionnaire qui ouvrit une voie jusque-là inexplorée. L'homme qui eut, avec carrière, l'influence la plus féconde que Rodin ait ressentie. Sans Medardo Rosso, Rodin, avons-nous le droit d'écrire, n'eût pas exécuté son Balzac tel qu'il l'a conçu. Et Rodin le savait bien, qui vint 100 fois à l'atelier de son confrère, le regarda travailler, l'écouta, échangea son torse contre la rieuse et utilisa froidement ses découvertes.
La belle voix de Lara Brulle vient de nous lire ce portrait du géant roux. Et pour en parler, j'ai la chance de recevoir également Patrick Feigenbaum, artiste. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci. Et vous?
Ça va très bien. Et nous sommes aussi avec Valérie Dacosta, la fameuse historienne de l'art, qui a sorti, évidemment, publié des livres importants sur l'art italien. Je pense en particulier à son livre sur Fontana, l'autre sur Pascali. Nous avions déjà parlé ensemble d'une autre artiste, pas italienne, celle-là, Germaine Richier. Vous êtes professeur à l'Université de Strasbourg et merci infiniment d'être là. Je sais que vous regardez toujours cet artiste Medardo Rosso avec une affection particulière. Patrick Feigenbaum, vous êtes photographe, un des plus grands photographes d'aujourd'hui en France. Vous êtes allé il y a quelques jours à Rome voir les œuvres de Medardo Rosso. Qu'est-ce que regarde un photographe quand il regarde Medardo Rosso, sculpteur?
Alors, j'ai été bouleversé lorsque j'ai vu la première fois les Esclaves de Michel-Ange à la galerie de l'Accademia. C'était en 84, je crois. Qui sont inachevés. Lorsque j'ai vu la première fois une œuvre de Medardo Rosso, c'était l'enfant malade, il bambino malato, chez Catherine Tieck, et j'ai eu là aussi un écho de ces vibrations, enfin que j'ai pu ressentir, bouleversé quand j'ai vu cette œuvre de Medardo Rosso, voilà pour la première fois. Ensuite, comme avec les esclaves de Michel-Ange, que je n'ai pas réussi à approfondir, disons, ce projet, je voulais faire des images avec des œuvres de Medardo Rosso. Et ça a eu lieu, en fait, en 2016, il y a donc 3 ans, où nous avons été justement avec Catherine Tieck chez des gens qui ont un certain nombre d'œuvres de Medardo Rosso. Notamment cette œuvre qui s'appelle L'enfant juif. Donc, nous préparions une exposition, nous sommes allés spécialement rendre visite à ces gens. Et en 2 jours, j'ai photographié différentes œuvres, principalement ce portrait, l'enfant juif, différentes versions, à différents moments de la journée, avec différentes lumières. Et nous avons fait cette exposition qui était un peu vous montrer la sculpture dans mon travail, c'est une chose importante. J'avais commencé à Rome, j'étais à la Villa Médicis à l'exposition de fin de séjour en 87, où j'ai photographié des bustes d'empereurs romains au Capitole et au Vatican. Et il y avait d'autres œuvres sculpturales que j'ai montrées donc à la galerie, le Studiolo Galerie de France en 2016.
Ce qui t'attirait quand tu as vu cela, le sujet bien sûr, mais est-ce que c'est une qualité de lumière que les œuvres de Rosso auraient particulière? Est-ce que c'est la volonté qu'il avait de faire regarder ses œuvres d'un angle absolu? Comment il y a une idée de point de vue qui rejoint celui de la photographie?
Oui, alors je parlais des esclaves de Michel-Ange qui sont inachevés, avec les œuvres en cire de Medardo Rosso, j'ai eu le même sentiment, quelque chose qui est un peu inachevé, qui est en mouvement comme ça, alors lui disait que seules ses photographies étaient valables, que personne d'autre ne pourrait photographier ses œuvres. Alors ça m'a passionné, parce que je me suis demandé si Michel-Ange, si Desiderio Settignano, par exemple...
auraient photographié leurs œuvres.
Photographier leurs œuvres, voilà, pensaient la même chose que Medardo Rosso, qu'est-ce que ça donnerait, donc,
s'ils disaient ça. C'est une histoire assez particulière, parce qu'on aura un autre exemple d'un grand sculpteur qui va photographier ses œuvres, c'est Brancusi. Voilà. On va y revenir, parce que effectivement, il y a un appel à la lumière qui ne peut concerner qu'un artiste comme vous, c'est-à-dire un photographe de la lumière et de la sculpture, de l'objet dans l'espace. Alors je voudrais demander à Valérie Dacosta. Valérie, vous allez bien ?
Très bien, merci. Bon.
Valérie, dites-moi, Medardo Rosso commence à travailler vers 1880 à peu près en Italie.
Oui.
Il commence plutôt comme peintre ?
Non, il est formé à l'Académie des Beaux-Arts de Milan, à l'Académie Brera, et il se forme à la sculpture. Mais il va très vite essayer de se dégager d'un enseignement académique qu'on peut recevoir à ce moment-là dans une Académie des Beaux-Arts en Italie, mais pas seulement en Italie, mais enfin là en Italie. Et donc il va effectivement faire ses premières sculptures au début des années 1880, en privilégiant un travail sur le modelage. Mais c'est une technique qui est enseignée dans les écoles d'art à ce moment-là.
Et alors, il y a à ce moment-là un mouvement naissant en Italie, qui a un nom qui est difficile à prononcer pour nous, pas...
Allez-y. Scapigliatura.
Alors c'est les Scapigliati, en fait, ceux qui en font partie.
Oui.
Et qu'est-ce que c'est, ce mouvement ?
Disons qu'il arrive à un moment où c'est une Italie qui est en plein bouleversement. Alors déjà, je voudrais juste insister sur le fait qu'il y a des bouleversements politiques parce qu'on est dans une Italie qui essaie de s'unifier. Oui, c'est ça, c'est le Risorgimento, c'est l'unification d'Italie qui va prendre beaucoup de temps. Et donc, cette unification d'Italie, elle met en place aussi un certain nombre de bouleversements artistiques. Donc, il y a ce mouvement qui s'appelle Scapigliatura, qui vient de Scapigliato, qui veut dire échevelé. Il y a un dessin de Léonard qui s'appelle La Scapigliata, l'échevelé, qui est montré là à Paris en ce moment,
vous pouvez la voir. Ouais.
Et ce sont des jeunes artistes, en fait, qui représentent une sorte de bohème artistique, qui vont être contre un art officiel, contre l'ordre établi, et cette idée de renouveler, en fait, les modes de création se retrouve pas seulement dans les arts plastiques, mais aussi dans la musique, dans la littérature.
Mais c'est un romantisme?
C'est des sortes de d'artistes romantiques d'ailleurs dans les photos qu'on peut avoir ou les représentations de gravures, ils ont des cheveux comme ça un peu ébouriffés, ils ont la barbe. Enfin, il y a effectivement cette dimension d'artiste de la bohème. Voilà, c'est ça qui est un peu défendu et l'idée surtout de faire un travail qui s'inspire du vrai. Et ça va être important pour Medardo Rosso parce qu'il arrive un peu à la fin de ce mouvement qui a commencé dans les années 1860. Donc lui, il est né en 1858. Donc bon. Et quand il est rattaché un peu à cette aventure, cette idée de faire un art vrai, c'est quelque chose qu'il va évidemment retenir dans son travail des têtes qui vont s'inspirer de l'idée de représenter cet art vrai à travers l'art des émotions.
Et alors, lui, il va lui arriver quelque chose. C'est drôle dans le, je sais pas si ça vous est arrivé, Patrick Feigenbaum, mais dans la vie de quelques artistes, il y a des scènes primitives. C'est-à-dire le moment où se forme la vision. Et lui a une scène primitive. Et comme on a la chance d'avoir sur le plateau une grande actrice, Laura Brühl, qui est avec nous. Ah, merci Laura d'être là. Est-ce que vous pouvez nous raconter la scène primitive qu'il décrit? On est vers 1883. Il est dans une église. Et puis?
À ce moment, j'ai vu passer un couple, là, sur le dallage. Je regardais et je voyais que le plancher que je croyais plat, pour que l'on puisse marcher dessus, se relevait, venait en avant, était comme un ton et ces personnes se détachaient par opposition avec cette tonalité. C'est cette ombre qu'ils laissaient derrière eux qui en faisait une chose énorme. Je me disais, j'ai raison, je ne sais pas pourquoi, j'arrête et je cours m'installer sous une autre fenêtre. Car plus ils avançaient, et plus cette ombre semblait diminuer, elle ne me faisait plus d'effet. Le ton de l'ombre parlait à ce moment plus que les personnes. Autre fenêtre et nouveau regard. J'ai raison, me dis-je, si je descends, je vais là, et je vais pouvoir toucher ces couleurs, les prendre avec la main, comme tout le monde l'a toujours cru. Mais si je cherche à atteindre cette ombre par terre, c'est impossible. Et c'est un ton qui existe, comme les autres. Guidé par mon émotion qui me donne tous ces tons, eux non plus, je ne peux pas les prendre avec la main. Donc je le touche, et pourtant je ne le touche pas. Tous les autres ont toujours vu en fonction du toucher. Ils n'ont jamais respecté la lumière et la couleur. Pourvu qu'on fasse les choses pour les aveugles. Mais moi, je touche ou je ne touche pas. Et j'ai dit, je ne touche pas. C'est un infini. C'est une émotion. C'est une coloration. Je ne touche pas. Les gens ont toujours cru voir en touchant. Je ne touche pas. Je ne touche pas, n'est-ce pas? J'ai compris les disproportions qu'on a l'habitude de corriger. Alors qu'elles nous sont données par nos émotions, lesquelles sont vraies, sans la perspective linéaire matérielle qu'on vous a toujours enseignée, différente de cette émotion, qui ne peut pas attendre. Attends, que je t'attrape. Et je suis sortie de la salle. Je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit, mais je sentais que j'avais raison. Et cela me suffisait.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière et nous venons d'entendre la scène primitive, le moment où un langage s'invente à l'intérieur de l'esprit de l'artiste, un moment très émouvant. Je suis avec Patrick Feigenbaum. Patrick, cette façon d'inventer au fond les bases de ce qu'est ce qu'on a appelé une sculpture impressionniste, c'est-à-dire qui tiennent compte de la phosphorescence émotionnelle et lumineuse autour de l'objet. Est-ce que c'est un aspect qui vous a intéressé, qui vous a concerné?
Oui, ça m'a passionné parce que le désir de photographier les œuvres de Médard de Rousseau était pour moi la possibilité de tourner autour, de m'en approcher et de comprendre qu'il y a un mouvement donné par à la fois par la matière dont je parlais là, tout à l'heure avec la cire ou le bronze d'ailleurs, mais ces mouvements sont différents. Ou par exemple la bambina che ride, la jeune fille qui rit, dont il y avait d'ailleurs une photographie originale à l'exposition à Rome, au Palazzo Altemps, un tirage original de Médard de Rousseau, car cette œuvre est à la Galerie d'Art Moderne de Rome. Elle était présentée là. En s'approchant, donc quand on voit la photographie qu'a faite Médard de Rousseau, la jeune fille rit. Et j'ai fait plusieurs images à plusieurs distances. J'ai voulu être à la même distance que lui aussi, et je m'en suis rapproché. Et le rire, tout d'un coup, bascule et devient quelque chose d'absolument dramatique. Devient une souffrance, il devient une grimace. Enfin, le rire, ce n'est plus un rire. Alors là, maintenant, faut que je pense à tout ça parce que c'est des choses que j'ai vécues là il y a deux jours. Mais ça m'a passionné. Et ensuite.
Alors là-dessus, pardon, Patrick, mais je serais curieux d'avoir le point de vue de Valérie sur cet aspect-là, c'est-à-dire que ses premières sculptures, parce qu'au fond, Valérie, soyons clairs, il y a assez peu de sculptures de Médard de Rousseau. Le corpus global doit faire quoi? Une cinquantaine d'œuvres?
Oui, c'est ça. Il y a eu un catalogue raisonné qui a été fait en Italie par notamment une grande spécialiste qui s'appelle Paola Molla, qui est sortie en 2009. Et il y a 50 sculptures. Mais comme il a fait des variantes à partir de ces 50 motifs, on arrive à un corpus autour de 300 œuvres à peu près.
Y compris les dessins et les photographies?
Non, ça c'est encore une chose à part.
Qui est font un peu redécouverte depuis peu.
Assez peu, oui.
Alors, je voudrais vous demander, là, on a entendu le moment où il découvre son vocabulaire, tout de suite avec la chair d'autrui, les premières sculptures, c'est-à-dire qu'ils sont des visages accompagnés d'une sorte de drapé de cire et dans lequel on devine de la lumière en train de se faire et pour lesquels il obligeait un point de vue. Est-ce que son œuvre est effectivement aussi nouvelle que nous le prétendons?
C'est le grand sculpteur moderne de l'art italien de la première moitié du XXe siècle. Il est moderne parce qu'il apporte...
Je pensais que vous alliez dire du dernier quart du XIXe siècle.
Oui, il est vraiment à cheval entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, mais il a une grande partie quand même de son œuvre qui se fait dans les 10 premières années. Enfin, il meurt en 28, donc tout ça se déploie. Disons qu'il est vu comme un artiste de la modernité... par cette technique, effectivement, qui n'appartient qu'à lui, c'est-à-dire travailler, mettre de la cire sur du plâtre et donc essayer de représenter la question des émotions, la tristesse, la joie, comment on peut passer de la joie à la souffrance, ce que vous disiez, Patrick, de la grimace, enfin, c'est tout ce registre-là. C'est le visage, donc c'est là où ça se passe, où les émotions se traduisent, donc c'est une sculpture de l'intime, c'est pas du tout une sculpture ni héroïque ni monumentale. Et il y a évidemment une chose qui est très particulière qui va très vite mettre en place, c'est-à-dire cette question des impressions, donc qui donnera ce terme à cette idée d'une sculpture expressionniste, donc qui serait impressionniste. Impressionniste, excusez-moi, oui. Mais elle peut être un peu expressionniste, peut-être, parfois. Donc, cette idée qu'il y a cette atmosphère autour, la lumière, l'air, les vibrations de l'air, etc. C'est-à-dire tout ce qui peut se traduire autour d'un être humain qu'il va saisir dans la sculpture. Et ça, c'est profondément nouveau. Même s'il est symboliste, et il est contemporain des symbolistes, et ça, c'est une chose très importante.
Effectivement, je pense qu'il est aussi il a aussi beaucoup impressionné les symbolistes, parce que l'entourage d'Henri Roir, qui est l'ami de Mallarmé, l'ami de Manet, bien entendu, enfin c'est la famille, va être très impressionné par Médard de Rousseau et soutenir, parce que c'est le clan un peu des symbolistes, c'est-à-dire de la résonance de la matière, de la sensation au-delà de l'objet.
Oui. Et aussi d'un courant symboliste qui a été très fort en Italie dans les années 1880. Et je pense notamment à ces peintures absolument incroyables d'hospices faites par Angelo Morbelli, où on a comme ça des vieillards qui sont avachis sur des tables dans des salles abandonnées. Et où il est question aussi de l'expression des émotions. Et pour toutes ces raisons, il va être le sculpteur moderne pour les futuristes. C'est vraiment la base, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans toute la sculpture futuriste. On y reviendra peut-être, mais Boccioni le nommera comme étant effectivement le père de la modernité, c'est-à-dire qu'il va leur apporter cette idée qu'on va retrouver aussi dans la peinture futuriste, de saisir des états d'âme, des états émotionnels, avec, autour, un contexte, un environnement.
Alors vous parlez de sculptures qui sont très petites, c'est des petits formats.
Oui, c'est petit, ça fait... les têtes, c'est 20-30 cm. Les plus grandes, c'est la dame à la voilette. Oui, ça, le portrait d'Henri Roir, ça fait 80 cm, maximum 1 mètre de haut. Donc, ça reste effectivement des sculptures intimes. D'ailleurs, on voit les quelques photographies qu'on a de l'atelier ou du salon d'automne, on voit que ce sont des choses qui sont effectivement de taille humaine.
Alors, il y a un critique qui, dès 1883 ou 4, Edmond Thiodière, comprend tout de suite, ça va être des premières sculptures qui vont apparaître en France, et il a tout de suite compris la nouveauté. Écoutons-le.
Voici un sculpteur italien qui sort joliment des italianeries habituelles. Ce n'est pas un dentelier en marbre, faisant un travail exquis, mais un peu trop mièvre et précieux. C'est même tout le contraire. Loin de s'amuser à ajourer le marbre, il demande au bronze de traduire en de puissantes pochades ou ébauches des impressions neuves. Il fonde ainsi et magistralement la sculpture impressionniste. La tentative de Rosso est vraiment originale, par l'exécution, par la conception, et nous la trouvons heureuse pour notre compte. Il n'y a pour ainsi dire que des indications dans sa tête de Gavroche, mais combien juste et saisissante. Quand on a vu une fois ce masque rocailleux, né en l'air et souriant d'un sourire brèche-dent, sous sa casquette posée de travers, on ne saurait l'oublier. Peut-être le tête-à-tête intitulé « Une mère et son enfant endormi » révèle-t-il encore plus de génialité chez l'artiste. Ces deux têtes entrevues dans la pénombre, comme à la lueur d'une veilleuse ou à celle des premières clartés de l'aube, ont, à notre humble avis, une valeur artistique de premier ordre. Il appartient à Medardo Rosso de se rendre le témoignage le plus flatteur que puisse se rendre un artiste. C'est d'avoir fait quelque chose d'absolument nouveau dans le domaine de son art.
Alors c'est une grande surprise, je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, Patrick Feganbaum, mais tout de suite, la critique voit la nouveauté de son travail. Et lui, évidemment, très impressionné, je pense, d'être apprécié par la critique, y compris la critique française, va chercher à venir en France. Comment trouvez-vous la description que font ces premiers critiques? Ils ont vu juste, non? Qu'en pensez-vous, Patrick?
Oui, ils ont vu juste, et d'ailleurs, là, l'expérience que j'ai pu faire ces derniers jours, là, en entrant dans l'exposition, donc aussi en ayant la possibilité de m'approcher des œuvres, curieusement, je me suis retrouvé, certaines fois, devant certains, dont la peinture de Rembrandt. J'ai eu le sentiment que les têtes d'enfants, par exemple, l'enfant juif, il a eu plusieurs titres. Hein. Mais enfin, disons que là, il est intitulé comme ça. En essayant de chercher leur regard, je me suis rendu compte que j'arrivais à être face à eux, mais qu'ils étaient pensifs, qu'ils n'étaient pas complètement avec vous. Et ces enfants pensent à quelque chose. Ils sont là et ailleurs.
Ça me plaît beaucoup ce que vous dites, parce que vous avez, je crois, absolument raison, dans la mesure où ce n'est pas un art de la présence. C'est un art rêveur. Et on a l'impression d'accompagner l'image dans sa pensée.
Oui, c'est ça, absolument. Lorsqu'on est, parfois, je parlais de Rembrandt, parce qu'on, chez Rembrandt, il y a, enfin, chez d'autres, mais bon, je pensais à Rembrandt, là.
Il y a peut-être aussi cette matière, matérialité de la surface.
Voilà. Et il y a à la fois quelque chose de très fixe et d'instantané. On pourrait croire qu'il aurait sculpté ses enfants dans l'immédiateté, comme ça, il y a quelque chose d'instantané. Il y a un mouvement comme ça, très très vif, comme s'il aurait pu arrêter comme ça un enfant qui courait, qui pouvait marcher dans la rue comme ça et lui faire son portrait d'une façon, enfin dans une immédiateté comme ça. Et je pensais à Rembrandt parce que les modèles qui sont absorbés dans eux-mêmes, enfin ils vous regardent, mais en même temps ils sont pas complètement avec vous, quoi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie Dacosta, de cette relation que fait Patrick avec sa vision d'artiste avec Rembrandt?
Oui, c'est assez juste comme comparaison. Je pense que c'est cette utilisation de cette cire sur le plâtre qui fait que la lumière est absorbée et il y a cet effet d'effacement des traits des visages, comme si ces figures disparaissaient. Elles sont évanescentes, elles sont fugitives. C'est aussi ça la définition de la modernité selon Baudelaire. C'est quelque chose qui est justement fugitif, transitoire, contingent. Voilà, il incarne ça avec sa sculpture. Et c'est vrai que cette absorption de la lumière qui vient de ce matériau cire fait qu'on a le sentiment effectivement que ce sont des fantômes comme ça qu'elles nous échappent, qu'elles disparaissent. Et il y a aussi, mais peut-être qu'on y reviendra, la question, vous parliez des photographies Patrick, mais il n'y a rien à voir derrière une sculpture de Médard de Rousseau. Volontairement, d'ailleurs, il faisait en sorte que les gens puissent pas vraiment tourner derrière les sculptures, c'est-à-dire qu'il déjoue la ronde bosse. C'est vraiment un art frontal. Et ça, c'est quand même un sacré pied de nez à la sculpture.
Oui, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, du point de vue de la sculpture, on dit tout le temps, quand on lit les critiques de l'époque, que son œuvre s'inspire plus de Donatello que de Michel-Ange, par exemple.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas l'œuvre non finie à la Michel-Ange, c'est-à-dire dont lequel ce qui est sculpté est clos, comme chez Rodin, évidemment. C'est plutôt, je crois que les Italiens ont un mot que je vous demande pardon, Valérie, hein, si vous pouviez me le prononcer mieux, le scacciato.
Oui. C'est-à-dire, c'est cette idée d'écraser, effectivement.
Des méplats, c'est ce qu'on appelle des méplats.
Oui, mais quand on regarde...
Travailler la perspective sur la surface de...
Voilà, et donc cette surface, elle est accidentée, comme elle sera autrement accidentée chez Rodin aussi, d'une autre manière. Mais c'est effectivement scacciare, et c'est cette idée d'écraser cette matière et de faire en sorte qu'elle ait ses irrégularités et elle soit plate. C'est comme s'il passait justement un coup d'outil pour aplatir cette matière et effacer.
Ça a fait dire à quelques critiques colériques qu'il aurait mieux fait de faire de la peinture, au fond, puisqu'il y a un seul point de vue.
Disons que c'est une manière de renouveler la sculpture, et c'est en ça aussi qu'il a plu à certains critiques, qui étaient des critiques assez, qui avaient un sens de la modernité et qui étaient capables de comprendre ces éléments nouveaux. Et il a déplu à d'autres parce que, effectivement, il ne fait pas de la sculpture, peut-être comme on l'entend à la fin du 19e siècle, avec une conception beaucoup plus traditionnelle.
Alors, il y a quelqu'un à qui il va plaire tout particulièrement et qui n'aura pas l'œil dans sa poche, si je puis dire. C'est un grand artiste qu'il rencontre et il me semble qu'en 1894, cet artiste dont je parle, qui s'appelle Rodin, lui envoie un petit mot. Lara, est-ce que vous voulez bien nous le lire ?
Mon cher Rosso, vous m'avez fait un immense plaisir en arrivant à l'atelier. J'étais frappée d'une folle admiration. Je ne vous ai pas écrit parce que je ne savais pas votre adresse. Je suis heureux. Et si samedi vous voulez déjeuner avec moi, je serai content. À bientôt, votre ami Rodin.
Que pensez-vous, Valérie d'Acosta, de ce nom, votre ami Rodin? Est-ce que c'était un bon ami?
Au début, oui. Et après, non. C'est-à-dire que Rodin va venir voir effectivement la première exposition que Medardo Rosso fait au théâtre de la Bonnière à Paris. Et évidemment, Rosso est très flatté parce que bon, quand on vient à Paris à ce moment-là, on veut rencontrer Rodin. Rodin, c'est un peu le sculpteur incontournable. C'est comme disent certains critiques, le Michel-Ange français. Rodin a autour de lui une équipe qui a 40 puis 50 personnes. Enfin, il est au fait de sa gloire. Il travaille à la porte de l'enfer. Et effectivement, Rodin va visiter cette exposition. Et ils vont devenir amis, ils vont échanger des œuvres, ils vont s'écrire. Et puis, va se mettre en place entre eux une rivalité assez féroce qui va être portée par des critiques qui vont s'opposer et qui vont se saisir de cette rivalité artistique.
Et en fait, pourquoi est-ce que Medardo Rosso vient en France? Qu'est-ce qui l'attire? Et qu'est-ce qu'il y trouve? Et qu'est-ce qu'il n'y trouve pas?
Alors, il y a aussi des histoires personnelles derrière ça. Il a dû quitter, pour des raisons personnelles, Milan. Il a été chassé de son domicile conjugal.
Son ex-femme lui a, voilà, a récupéré
donc
l'appartement.
Il part en direction de Paris, là où la modernité, les modernités artistiques ont lieu.
Mais c'était peut-être ça, c'était une foi dans la transformation inouïe qui se passait dans la vie parisienne.
Probablement. Et quand on fait de la sculpture et qu'on décide de venir à Paris, qui on veut rencontrer? On veut rencontrer Rodin, bien sûr. Voilà, parce que c'est un personnage important et on veut être sous la protection de Rodin, ce qu'il va chercher en fait. Il va chercher à devenir ami, c'est même assez touchant.
Alors, il se passe quelque chose de terrible, c'est que 2 ans plus tard, nous sommes en 1895, il s'est passé quelque chose, et vous allez nous dire quoi? Un article de Camille Mauclair dans le Mercure de France attaque Rosso. Et Lara, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait de cet article qu'on comprenne un peu ce qui va se passer?
On a aussi parlé de Monsieur Rosso le sculpteur. Ceci est plutôt une petite plaisanterie. Monsieur Rosso est un fondeur adroit, expert aux trucs divers de son état. Mais de ce que Monsieur Rodin eut un jour la courtoisie de répondre à une offre de Monsieur Rosso, en lui en envoyant un bronze, il ne s'ensuit pas que cette politesse du maître, tambourinée par les naïfs, suffise à prôner cet ouvrier malin qui n'existe, artistiquement parlant, à aucun degré. Monsieur Rosso étonne les bourgeois en leur vendant avec mystère des cires qui ne supportent qu'un seul éclairage, qui sont de mauvaises parodies, tripatouillées et teintées, des lithographies de jeunes carrières et qui n'ont aucune qualité plastique durable.
C'est pas très sympa, la critique d'art de l'époque. C'est beaucoup plus facile maintenant, Patrick?
Ah non, pas du tout. C'est pire.
C'est pire. Moi, je pensais que ça s'était un peu calmé. Et donc, on sent qu'il y a une instrumentalisation de la part de Rodin, probablement, Valérie d'Acosta, c'est ce que vous pensez?
Oui, c'est probablement ça. En tout cas, il y a eu très peu d'études en France sur Medardo Rosso. Il y a ce livre de Giovanni Nista sur Medardo Rosso qui fait toujours date et qui
publié
revient.
Publié à l'échoppe.
Voilà, publié à l'échoppe bon dans livre, les années 90 et qui revient sur cette querelle. Alors Rodin est en train de travailler à son Balzac. Il a eu cette commande quelques années auparavant par la Société des gens de lettres. Et effectivement, bon, alors apparemment, Rosso aurait été présent quand il trempe la fameuse robe de chambre dans du plâtre. Et le Balzac finit par être une forme assez monolithique, assez peu distincte, assez peu personnalisé, si, mais en tout cas assez peu distinct. Ils ont une forme assez grossière.
Il est en train, au moment où il y a cette critique, le Balzac est en train, mais il n'est pas fait encore.
Il est en cours.
Voilà, il a été commandé,
voilà,
par la Société des gens de lettres.
Et il est en cours. Et donc, on va effectivement reprocher à Rosso ce côté grossier, esquissé, non fini de, sa sculpture. Et on va, les défenseurs de Rousseau vont trouver qu'il y a finalement dans le Balzac de Rodin une sorte de qui est à l'œuvre, donc une sorte de regard qui est porté justement à tout ce côté non fini et esquissé du travail de Rousseau. Donc il va y avoir en fait une rivalité qui va se mettre en place entre qui a fait quoi, qui défend qui et défend quoi. Peut-être que Rodin est derrière en fait tout ça, en tirant les ficelles de cette rivalité. Ce qui est sûr, c'est que ça va coûter très cher à Médard de Rousseau.
Mais est-ce que ce qui est sûr, Valérie, et puis après je voudrais bien l'avis de Patrick Feigenbaum sur la photo de Steichen, évidemment, mais est-ce que ce qui est sûr, c'est que Rodin a quand même... Son génie est indiscutable, mais il a quand même trouvé des solutions dans le travail de Rousseau.
Visuellement, c'est vrai que c'est assez étonnant parce que c'est une forme qui est comme si elle était comme ça un peu prise derrière un linge, son Balzac, hein, une forme un peu empaquetée. Et on a cet effet de forme un peu comme ça empaquetée des sculptures de Médard de Rousseau. Donc, effectivement, c'est très probable qu'il ait regardé. Mais ça n'empêche que, effectivement, Rodin est un génie, mais Rodin a aussi attrapé par-ci par-là des idées. On sait comment il a regardé le travail de Camille Claudel, comment il a regardé le travail de Médard de Rousseau. Et tout ça, en fait, circule, sont des idées, sont des formes, sont des investigations sur la sculpture. Donc, mais il ne faut pas faire d'ombre à Rodin, même si c'est un homme éminemment reconnu.
Alors, c'est vrai qu'il aura travaillé pendant des années sur son Balzac. Ce Balzac va être exposé, mais pas installé à Paris tout de suite. Il va être installé à Meudon. Et à Meudon, il va y avoir une photographie qui donne une sensation qui évoque un petit peu l'impressionnisme de Rousseau, au fond, qui est la fameuse photographie de Steichen, Patrick Feigenbaum.
Alors, je dois avouer que je n'ai pas vu cette photographie depuis longtemps.
Vous l'avez en tête.
Je l'ai un peu en tête.
Contre-plongée sur fond nuageux.
Oui. Donc, elle est assez sourde, assez pictorialiste. Je trouve personnellement que c'est une bonne image, mais je dois avouer que j'ai pas une passion pour Steichen. Et la modernité, qu'on peut retrouver dans cette œuvre de Rodin, selon moi, n'est pas traduite dans la photographie de Steichen.
Moi, je trouvais que la façon dont les nuages, l'obscurité, la nuit ou le crépuscule rentraient à l'intérieur de la chair, du bronze en fait, ou du plâtre d'ailleurs, je ne sais pas, du Rodin, donnait cette sensation. Alors, peut-être que, Lara, si vous pouvez nous aider, il se trouve que lorsque le lin a été présenté, lorsque le Balzac de Rodin a été présenté, au salon, eh bien, la critique tout de suite... a compris l'association Rousseau-Rodin. Et il y a un texte très bien, je trouve, de Camille Sainte-Croix, et j'aimerais bien que vous nous le lisiez, Laura, si vous voulez bien.
Retenons bien que le salon de cette année aura marqué une date capitale dans l'histoire de l'art français. Au moment même où, venant de Milan, un très grand artiste, Medardo Rosso, nous apporte les germes d'une surprenante renaissance. C'est une joie pour nous de voir Auguste Rodin, le plus puissant statuaire que la France ait connu depuis Houdon et Rude, entrer vaillamment et vigoureusement dans la lutte, sentant l'heure venue d'un essor nouveau. Baudelaire, devant l'impuissance de ses contemporains, reprochait aux sculpteurs de n'être que de vains ornementalistes et de ne pouvoir, comme les peintres, nous traduire les réelles splendeurs de la vie en faisant entrer dans leurs œuvres les éléments essentiels des valeurs de lumière, de mouvement, de perspective et d'enveloppe atmosphérique. Il y a 4 ans, une exposition de la Bodinière où Medardo Rosso groupait ses premiers essais, la mère et l'enfant, l'enfant malade, l'enfant juif, l'enfant au sein, etc., nous apprenait que le défi de Baudelaire venait d'être victorieusement relevé.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez l'art et la matière et nous parlons de l'immense sculpteur italien, français aussi, puisque naturalisé, Médardo Rosso. Et je suis avec Valérie Dacosta, historienne, et Patrick Feigenbaum, artiste, pour parler de l'importance de cette figure. Et nous sommes dans le climat des débats esthétiques de la fin des années 90, du début des années 90 en France, au moment où Balzac de Rodin heurte au fond l'esthétique générale de Médardo Rosso, et qu'on se demande qui est à la source de tout cela. Alors évidemment, vous, quand vous regardez, Patrick Feigenbaum, une sculpture de Rodin de cette période-là, le Balzac en particulier, mais vous avez l'impression que c'est une singularité dans l'ensemble de sa démarche, le Balzac, ou est-ce que c'est un aboutissement normal et prévisible?
Je ne sais pas si c'est le fait d'être né à Paris et d'avoir vu cette œuvre installée dans l'urbain, qui devient dans le fond un monument qu'on a l'habitude de voir. Il y a une certaine à un moment donné, on la regarde plus. Je dois avouer que je devrais y retourner là et m'y attarder un peu plus. Mais il y a effectivement une différence quand on est dans le musée Rodin, à voir les œuvres de Rodin et le Balzac. Mais j'ai un sentiment un peu particulier, c'est quand je vois, quand je pense au Balzac, je pense plus à Balzac qu'à Rodin.
Mais il semblerait que Rodin ait beaucoup pensé à Balzac, puisqu'il a, il en a retrouvé des portraits, il a fait faire évidemment la robe de chambre par le même tailleur qui lui faisait sa robe
il
de chambre.
Il a séjourné en Touraine.
Absolument. Donc il a été au bout du travail. Rodin le dit à un moment donné, c'est l'aboutissement de toute une vie. Cela dit,
je dois revenir. Pardon, excusez-moi.
Je vous en prie, Patrick.
Je reviens sur la photographie de Steichen, où effectivement elle traduit tout ça. Elle traduit l'ambiance de Balzac, elle traduit l'univers de Balzac, je trouve, voilà.
Vous y venez?
J'y viens, voilà. Petit à petit. Non, c'est une belle image, une très belle image.
Donc, Valérie Dacosta, cette période, ce combat avec Rodin, va détruire sa vie, peut-on dire, ou pas?
En tout cas, ça va beaucoup l'affecter. Parce que il va même participer à la souscription pour l'édification du Balzac. Mais son nom va être enlevé à ce pauvre Rosso. Il va réécrire à Rodin. Enfin bon, c'est une critique en fait qui est plus une bataille, qui est plus une bataille de critique qu'une bataille d'artiste. On sent que la critique s'oppose. Et puis il y a cette horrible Camille Mauclair qui est aussi. Enfin, il y a des choses. Rosso est un artiste italien, donc il y a quelque chose d'assez méprisant, d'assez raciste. Enfin, c'est vraiment assez moche, quand même, ce
combat.
On
est en pleine affaire Dreyfus, ça, voilà. Ça, faut dire aussi que ça...
Et Camille Mauclair sera un nationaliste terrible, notoire pendant le régime de Vichy. Donc bon, c'est assez... C'est-à-dire que ça touche tout d'un coup plein de choses. Et la critique, de toute façon, descend ce Balzac de Rodin, qu'on compare à un sac de charbon, qu'on compare à un menhir. Alors tout ça se mélange, cette idée que peut-être Rosso aurait influencé Rodin. Mais en même temps, le résultat, c'est que la Société des gens de lettres va refuser le Balzac de Rodin, avec ou sans l'influence de Rosso. Et c'est vrai que ça va coûter très cher à ce pauvre Médardo Rosso, parce que quand il va vouloir exposer à l'exposition universelle de 1900, Rodin fait partie du jury, et donc il ne peut pas exposer, il est refusé, sous prétexte qu'il est italien, donc on ne lui accorde pas d'exposer dans la section française. Mais peut-être à sa décharge ou pour sa gloire, il va avoir une reconnaissance européenne, donc il va aller exposer en Angleterre, en Allemagne, et donc ça, il va plus pouvoir exposer en France, mais il va pouvoir exposer quand même dans d'autres pays européens et contribuer à faire cette reconnaissance internationale qu'il a eue. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'il n'y a jamais eu en France d'exposition Médardo Rosso. Nous n'avons jamais eu une exposition monographique de Médardo Rosso, alors que ce serait un sujet magnifique pour l'Orangerie, le Petit Palais, Orsay, ou le musée Rodin. Et c'est comme si les institutions françaises, quelque part, rejouaient cette querelle qui paraît un peu dépassée, tout ça, parce qu'il ne fallait certainement pas attaquer ce grand Rodin qui était effectivement l'artiste le plus important, le sculpteur le plus important à ce moment-là. Mais c'est vrai que Rosso a vécu en même en France de 1889 à 1919. Il a pas mal voyagé quand même entre l'Angleterre, l'Italie, avant de retourner définitivement en Italie où il est mort à Milan. Et il a été très affecté par ça. Et après, effectivement, ses lettres sont très très féroces. Enfin, il est très amer, même s'il continue de travailler.
C'est pour ça que je vous disais que c'est pire aujourd'hui.
Patrick, c'est pire aujourd'hui, oui. Mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui, il est assez difficile de discuter que c'est avec Brancusi et Rodin l'une des trois grandes solutions de la sculpture moderne à cette période-là. Non, vous n'êtes pas d'accord ?
Oui.
Pour cette période-là.
Oui.
Et tous les trois ont eu des relations. Il est évident que la muse endormie de Brancusi vient de Etchepouer, de Médard de Rousseau. Donc, mais ils sont partis dans trois directions opposés. Ne les opposons pas plus qu'ils ne le méritent. J'aimerais bien, si vous voulez bien, qu'on aille avec Rousseau, parce que c'était un personnage spectaculaire et il aimait jouer de cette spectacularité. Et il avait, au fond, quelque chose qui a beaucoup frappé Rodin, détrompez-moi si je fais erreur, Valérie, c'est une virtuosité technique extraordinaire. Et donc, c'était un fondeur, semble-t-il.
Oui.
Hein, n'est-ce pas ?
Oui, un grand fondeur, oui. Il avait une fonderie à Milan, et il a eu ensuite une fonderie boulevard des Batignolles. Donc, effectivement, il faisait ses propres fontes. En plus d'avoir initié cette technique de la cire sur plâtre, il éditait ses bronzes, donc il travaillait les patines. Enfin, il avait un savoir-faire, un savoir technique qui était absolument exceptionnel.
Alors, on a la chance d'avoir une très belle correspondance avec Jehan Rictus, qui était son grand ami, qui l'a accompagné toute sa vie. Lui, il lui donnait de l'argent, et puis réciproquement, parce qu'ils étaient fauchés tour à tour. Et Rictus raconte. L'orage, nous comptons sur vous une fois de plus.
Rousseau doit fondre ce soir, et il m'a invité. L'ai trouvé avec quelques amis et son aide. Un pauvre bonhomme chétif singulier, qui fait des tout petits pas menus. Rousseau puissant et fort. On cause. Dans l'atelier obscur, le fourneau ronfle. J'y vois à peine. Vient l'heure. Rousseau passe son tablier de cuir, ses bottes, grimpe et attise le feu avec une forte et longue tringle de fer. Il est campé sur le bord du fourneau. Des gaz et de la fumée s'échappent. Il avale tous, crache et attise. On croirait un cyclope. La minute est solennelle. Rousseau commande à son aide. Du blanc, nom de nom. L'autre cherche du blanc et n'en trouve pas. Rousseau se précipite et en trouve. Les autres invités forment des groupes noirs. Voilà Rousseau regrimpé sur la margelle de son puits de feu qui gronde. Encore des coups de tisonnier. Puis avec une pince, il tire sur un assez gros creuset plein de métal en fusion et rouge vif. Son aide empoigne l'autre barre de la pince. Et à deux, il transporte le creuset près d'un moule dans le sable que je n'avais pas vu. Là, au bord, il penche le creuset comme un bol et le métal en fusion coule avec des flammes bleues. Et c'est fini. La masse se refroidira et ne sera maniable que d'ici deux jours. Je suis impressionnée par ce travail, tout en sentant le côté un peu théâtral et chiqué. Enfin, c'est l'italien Rousseau. Puis on se repose, il est en sueur. Il boit du lait, de l'eau de Vichy, etc. Puis nous offre du champagne. On bavarde.
Sur France Culture, vous écoutez L'Art et la Matière, nous parlons du grand sculpteur italien Medardo Rousseau et nous venons d'assister à la fonte d'une sculpture qui a l'air gigantesque alors que ces sculptures ne sont pas si grandes. Mais il y a deux ou trois sculptures dont j'aimerais bien que vous parliez l'un ou l'autre et je pense à des sculptures qu'on ne connaît qu'en photographie. Peut-être la connaissez-vous, celle-là, Patrick Feigenbaum. Ce sont des
personnages sur un boulevard. Ce sont les sculptures de groupe, en tout cas. Il y a les personnages sur un boulevard, il y a des gens dans un omnibus, il y a des... Et c'est incroyable, parce qu'on a l'impression que de percevoir l'atmosphère qui est autour d'eux, et ils basculent tous, rien n'est sur son axe.
Oui, alors malheureusement, je ne les ai jamais vus, j'ai jamais eu l'occasion de les voir. Je les ai beaucoup regardés. Alors là,
mais vous pouvez pas les voir parce qu'elles sont, elles n'existent plus.
Elles n'existent plus.
On a plus des traces.
Ah oui, là il y a. On me montre des images. Oui, donc les photographies. J'ai vu l'homme qui lit là, qui a sur la.
Qui est fantastique.
Page, qui est fantastique.
Avec ce, c'est curieux. Vous ne trouvez pas ce désaxement complet? C'est comme si, contrairement à ce qui se fait dans la sculpture traditionnelle, la pesanteur n'était jamais verticale, mais toujours oblique.
Oui. Alors, par rapport au groupe, évidemment, j'ai beaucoup pensé à Daumier. Et là, je vois sur une page du livre, l'homme qui lit. Alors, il y avait trois versions dans l'exposition à Rome, de l'homme qui lit. Et c'était assez extraordinaire parce que, par rapport à ce que l'on disait tout à l'heure, lorsqu'on disait que à l'arrière des œuvres de Medardo Rosso, il y avait rien à voir. En fait, justement, moi, je me suis beaucoup intéressé à ce rien à voir. J'ai essayé de voir quelque chose où il y avait rien à voir, et je pensais un peu je sais pas, quand Cézanne y peint deux pommes qui sont sur une nappe, bon, entre les deux pommes, il y a quand même un intervalle. Cet intervalle, il est peint. Bon, donc il y a à voir quelque chose. Et avec l'homme qui lit, alors Jean, vous parliez de cette oblique là. Effectivement, c'est très frappant, surtout quand on en voit trois versions différentes, l'une à côté de l'autre, qui sont très différentes. Et là, il n'y a pas dans ses œuvres un avant et un arrière. On est constamment, disons, sollicité, happé par toute la sculpture, n'est-ce pas ? C'est absolument extraordinaire. On tourne et ça devient complètement abstrait où on se met, mais ça reste toujours l'homme qui lit. Voilà, c'est assez. Donc là, il y a à voir en fonction de la lumière, en fonction de l'angle où on se pose, il y a à voir toujours quelque chose. Et je trouve de toute façon qu'il y a toujours à voir quelque chose, même à l'arrière des œuvres de Medardo Rosso, enfin celles que j'ai pu voir. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu les groupes, là, effectivement, s'ils n'existent plus. C'est difficile de les voir.
Je me souviens, Valérie d'Acosta, d'un texte que vous l'avez peut-être lu. C'est un spectacle ou un spectacle. C'est dans l'atelier de Rosso. Et il reçoit des clients, des collectionneurs. Et il y a une scénographie. Ça vous rappelle quelque chose?
Oui, il y a une vraie scénographie. Il met véritablement en espace ses sculptures dans son atelier et dans le cadre des expositions, où il confronte à la fois des versions, des techniques, plâtre avec cire dessus, bronze, mais aussi des photographies. Donc il y a vraiment l'idée de scénographier l'exposition. Et d'ailleurs, rien ne lui échappe. Il fait des photographies de ses œuvres, il scénographie ses expositions, c'est-à-dire il ne fait pas la critique de ses œuvres comme certains artistes peuvent devenir des artistes critiques, mais on a le sentiment vraiment qu'il cherche à être le plus complet possible autour de son art.
Moi, je me souviens d'une phrase, vous avez raison, parce que je vois très bien ce à quoi vous faites allusion. D'ailleurs, on le voit sur les photographies, la façon dont il installe, etc. Mais je me souviens d'un récit où il reçoit des collectionneurs, et alors il ouvre les rideaux, il ferme les rideaux, il se penche, il dit « Retournez-vous, ne vous retournez pas tant que j'aurai pas dit le bon moment », et puis tout d'un coup, il fait surgir l'objet, ça a duré une demi-heure, ce qui fait que les collectionneurs, tellement gêné, mais tellement forcément impressionné, ne peuvent pas faire autre chose. J'ai une question à vous poser sur quelque chose qui m'est très familier. Ça s'appelle la paresse. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une paresse de Rosso à un moment de sa vie? Il arrête, il fait si peu. Ben, ou je me trompe, il fait peut-être beaucoup, je ne le sais pas. Ou est-ce que c'est ce qu'on ne sait pas de son travail de photographe, par exemple?
Les spécialistes de Rousseau disent qu'il a effectivement un peu moins produit dans la deuxième moitié des années 10. Alors il était malade aussi, est-ce qu'il y a eu un ralentissement, comme s'il avait un peu épuisé toutes ses formes, comme si cette querelle avec Rodin l'avait aussi vidé. C'est assez intéressant de voir qu'il y a une sorte de concentration quand même du travail entre le début des années 1880 et puis le milieu des années 10. Et qu'après, il y a une forme de ralentissement avec des reprises de sujets. Peut-être qu'il est un peu oblomovien aussi, je ne sais pas.
C'est possible que Oblomov soit coupable. Mais dites-moi, Patrick Feigenbaum, est-ce que vous avez l'impression, vous qui avez regardé ces photographies, que c'est cela le thème de la fin de sa vie, de reprendre? Brancusi n'a pas arrêté de chercher la preuve de la réussite de ses sculptures par la photographie. Est-ce que ce n'est pas exactement la même chose qui arriverait à Médard de Rousseau? Il nous reste que 3-4 minutes, hein, donc faites-nous cela comme vous savez le faire, en dentelle.
Moi, je trouve que les photographies de Médard de Rousseau sont très différentes, bien sûr, de ses œuvres sculpturales. Mais il opérait plusieurs angles, il faisait des montages photographiques. J'ai l'impression qu'il attachait beaucoup d'importance à cette histoire de représenter ces sculptures avec la photographie. Il y a des couleurs, il y a des virages, il y a des techniques différentes.
Il y a des caches.
Il y a des caches, il y a des montages, des collages. Et un bricolage aussi, on peut appeler ça le bricolage. Et il y a des tirages de différents types, des tirages très beaux, des tirages plus bruts comme ça, plus clairs, trop sombres. Enfin, si. Mais c'est un peu, je trouve que ça va un peu dans le même mouvement que ses œuvres. Disons, il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas terminé.
Irrésolu, en quelque sorte.
Irrésolu, voilà. Comme si c'était un état
psychique presque.
Oui, un état psychique et quelque chose qui dans le fond, est infotographiable.
Ça me plaît, parce que au fond, c'est, je crois que c'est ça le sujet global et de sa sculpture et de sa photographie et de ses dessins. Vous connaissez aussi Valérie d'Acosta, ses dessins. Il y a juste le grain du papier qui apparaît sous des traits à peine esquissés.
Et ça nous donne l'idée effectivement d'un homme qui marche sur un boulevard avec ses traits comme ça au fusain très vite jetés, ou un visage comme s'il y avait en même temps un jeu d'ombre et de lumière. C'est-à-dire, c'est très 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 esquissé. Ça donne ce sentiment de rapidité aussi, la velocità, vraiment cette idée de vélocité, de rapidité que montrent ces dessins, et surtout cette dimension de non-fini qu'il y a autant dans le dessin que dans la photographie, que dans la sculpture.
Ça n'échappera pas, évidemment, aux futuristes. Et vous parliez de Bolcioni, il n'y a pas de doute que dans l'élan de l'homme qui court, le dépassement de son corps, comme ça, par ses grands drapés, il y a quelque chose qui fait penser aussi à cela. Valérie d'Acosta, merci infiniment de nous avoir apporté votre connaissance si fine de l'œuvre. Merci Patrick Feigenbaum, nous avions besoin d'un artiste qui nous parle d'un autre très grand artiste.
Merci
Lara Brühl, merci infiniment de cette belle voix et de ces belles lectures.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean Deloisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, j'ai reçu Valérie d'Acosta, Patrick Feigenbaum, artiste bien connu, Valérie d'Acosta évidemment historienne, et Lara Brühl, notre grande comédienne.
pour parler de Medardo Rosso. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr, une émission conçue en collaboration avec Seam Boutata. Prise de son Bernard Laniel, réalisation Anna Holweck. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay et son rayon BD. Et dans quelques instants, Personnages en personne par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.